aborder ce soir, eh bien, c'est le sacrifice. Et pour nous apprivoiser à la notion de sacrifice, eh bien, une approche plutôt anthropologique de la question. Alors, vous voyez, nous arrivons à un nouveau moment de notre parcours. Les quatre premières heures, on les a consacrées d'abord au récit de la scène et finalement, puisque c'est fait ceci en mémoire de moi, eh bien, la manière dont cela se faisait à travers la prière eucharistique elle-même. Je dirais, de certains points de vue, que nous avons tout dit, puisque finalement, il n'y a rien d'autre que ce que l'on fait lorsque, eh bien, on va à la messe. Ça revient à dire ceci, voyez-vous, c'est que, surtout pour l'Eucharistie, on va dire, voilà, la loi de la prière, voilà, la prière eucharistique, est la loi de la foi. Autrement dit, ce que l'on croit, eh bien, on le confesse, on le reconnaît dans les actes que l'on pose. On dit, les actes que l'on pose dans la messe disent précisément ce qui se passe, eh bien, et en même temps, eh bien, ce que nous croyons. Autrement dit, s'il y a, comme on va le faire, une certaine théologie de l'Eucharistie, ce n'est pas uniquement des idées, des théories ou encore des constructions théologiques, eh bien, la cohérence, le lien entre toutes ces affirmations, il se trouve précisément, eh bien, dans les actes que l'on pose, le « nous », qui est au cœur de la prière eucharistique. Et c'est pourquoi je me dis, dans les semaines qui viennent, il pourrait être utile de reprendre et de relire les textes des prières eucharistiques que je vous ai passées. Finalement, c'est à partir de là que les choses prennent tout d'un coup vraiment forme, consistance et vie. Alors, au cas où certaines d'entre vous auraient déjà perdu ces feuilles, mais il y en a un certain nombre ici sur les différentes prières eucharistiques. Il y a un moyen d'en prendre donc, en sortant. Donc, vous le voyez, la loi de la prière est en même temps eh bien, ce qui ouvre sur la loi de la foi, c'est-à-dire la foi elle-même. Et cela est tellement vrai, vous voyez, que toute la suite de notre parcours, d'une façon ou d'une autre, il va partir de la prière eucharistique. Vous vous rappelez, bon, action de grâce. Et dans cette action de grâce, il y a deux fois où il y a le « nous », le « nous » de l'Église, ce qu'elle fait. Et le premier, eh bien, vous vous rappelez, c'est « nous souvenant de sa mort et de sa résurrection, nous t'offrons ce pain et ce vin en te rendant grâce. » Le « nous t'offrons », mais voilà, c'est toute la question de la messe, de comme précisément, comme oblation et comme offrande. Et voilà, ce seront les trois prochaines séances et qui vont nous conduire précisément à la réforme et au Concile de Trente. Dans la deuxième action, dans la prière eucharistique, c'est « Et nous te demandons ». Qu'est-ce qu'on demande ? On demande l'envoi de l'Esprit-Saint, à la fois sur ce qu'on offre. C'est l'épiclèse de consécration, c'est-à-dire que ce que l'on offre, le pain et le vin qu'on offre, puisse devenir le corps et le sang du Christ. C'est la première épiclèse. Sur les dons. Et la deuxième, elle est sur nous. Eh bien, pour qu'on puisse, en communiant au corps du Christ, qu'on puisse devenir nous-mêmes un seul corps, une seule âme. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué, hein, ça nous dit enfin, ce que nous avons à faire, quoi. Et ce sera la deuxième partie, grande partie, hein, qui va poser la question de la présence réelle, et qui finalement, encore une fois, va nous conduire à la réforme et au concile de Trente, hein, ce qui montre combien, à quel point, hein, eh bien, c'est avec la réforme, hein, Luther, entre autres, on va voir Luther, hein, que, on peut dire, toute la doctrine traditionnelle, hein, de l'Église sur l'Eucharistie aura été mise, peut-on dire, donc, en question. Ça sera intéressant, parce qu'en même temps, c'est bon de voir que Luther n'était pas bête. Hein, hein. Ça sera intéressant d'abord de voir, hein, comment est-ce qu'il voyait la chose. Hein. Et en même temps, ben, il voyait jusqu'à un certain point juste, et en même temps, il passait à côté. Voilà. Alors, ça, c'est donc le programme. Vous le voyez bien, en même temps, continuons. Eh bien, vous avez les actes du Christ à la scène. Le Christ prend du pain. Il prononça la bénédiction. Nous, on dirait l'action de grâce. C'est-à-dire, au fond, eh bien, la prière eucharistique pour nous. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il le rompit et il le donna à ses disciples. Autrement dit, la messe, hein, elle est un repas, hein, comme ça a été le cas à la dernière scène. Hein. Et là, on voit au niveau de la liturgie, eh bien, c'est précisément cette dimension du repas. C'est ce qui est pris en charge à partir du Pater, hein, de notre Père, et qui va conduire à la communion. Alors, vous le voyez, après le pater, le prêtre rompt l'hostie. Intéressant, hein? Vous avez des prêtres qui pensent, hein, qu'il faut rompre l'hostie au moment de la consécration. Hein? Voilà. Mais la messe n'est pas un mime de la scène. Hein? Elle reproduit la scène. Hein? Hein? Et dans un temps qui est le temps liturgique. Hein? Si bien que cet acte, où le Christ rompt pour le donner à ses disciples, eh bien, voilà, il se produit dans la liturgie de la communion. Hein. Et c'est cela qui conduit finalement, eh bien, à ce qu'on est là, donc, à partager la communion. Donc, vous le voyez, la liturgie elle-même déploie dans un temps, on pourrait dire un temps liturgique, il faut bien qu'il y ait un avant et un après, et pourtant, eh bien, dans ce temps liturgique, on pourrait dire que c'est un seul et même acte du Christ à la scène, auquel, eh bien, dont on est rendu participant. Donc, on aura à ce moment la communion. On verra aussi, hein, en partie, eh bien, les conditions, hein, pour pouvoir communier. Donc, voilà. On n'aura que suivi après la liturgie, hein, durant tout notre parcours. Et au terme, ben voilà. On pourra, à ce moment-là, c'est ça, parler de l'adoration eucharistique, qui n'est pas comme telle, il faut bien le situer, hein, qui ne fait pas partie de l'action liturgique elle-même, et qui pourtant, en tout cas, hein, pour nous, catholiques, hein, dit quelque chose. Hein, ce moment où malgré tout, on se tient, hein, devant le Seigneur dans l'adoration. Donc, voilà un peu donc, le parcours tel que, eh bien, nous allons le faire. Alors, donc, maintenant, donc, nous abordons, maintenant, dans les 3 heures qui viennent, la notion de sacrifice. On a fait allusion, je dirais, pour nous convaincre, hein, que, de fait, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas éviter ce mot. Hein. Ben, je regarde. Avant même la prière eucharistique, hein, vous avez d'abord, eh bien, si on regarde le missel, hein, et il nous est dit d'abord, tiens, voilà, il y a la préparation des dons, hein, des oblats, vous voyez, hein, le vin, et c'est là que vous avez les prières de bénédiction, hein, béni sois-tu Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, béni sois-tu, toi qui nous donnes ce vin. Et alors, après ça, hein, vient la prière sur les offrandes, et là on la connaît. On y répond. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Rien à faire, hein, c'est dit clairement, c'est le point de départ. Et on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Vient ensuite, eh bien, on n'y échappe pas, hein, vient ensuite, eh bien, ce qu'on appelait auparavant la collecte, qui on a, qui, bon, de fait, de toute façon, c'est « prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église », c'est pour la prière qui suit, quoi. Et la prière qui suit, j'en donne deux exemples, hein, hein, au hasard, deuxième dimanche de Pâques, par exemple. « Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Hein, » on offre quelque chose. Hein, hein. « Renouvelé par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus-Christ. » Non, en est une. J'en prends une autre, si. Allez voir, c'est toujours le même genre. Hein. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir. Voilà. Hein. Nous te présentons dans la joie ce sacrifice et donne-nous de savoir l'offrir nous-mêmes pour le salut du monde. Voilà. Et après, comment vient à ce moment-là la préface, le Sanctus, et bien les textes que nous avons vus. Donc, il y a donc une importance spirituellement pour nous, hein, à cela, puisque nous le faisons, hein, en chaque Eucharistie, au moins le dimanche. Je dirais en même temps, voyez-vous, que ce n'est pas la notion de sacrifice, l'idée de réalité du sacrifice n'est pas une des choses les plus évidentes de nos jours. Hein. On pourrait dire que, eh bien, ça allait de soi jusqu'à Vatican II. On parlait, hein, du très saint sacrifice de la messe, quoi. Mais alors, de nos jours, hein, depuis, entre autres, enfin sûrement dans un premier temps, après Vatican II, eh bien, tout l'accent a été mis sur l'Eucharistie comme un repas convivial, un repas de partage. Tout a été mis sur qui est Jésus pour nous, hein, vous voyez bien. Dans les homélies, est-ce que vous entendez souvent dire que, eh bien, dans la messe, nous offrons quelque chose? Dans les homilies, est-ce que vous entendez souvent, hein, sauf dans certains milieux, peut-être qu'on pourrait dire, bon, un peu là, bien saisi. Mais en général, ce n'est pas, entre vous, dans les homilies courantes, hein, de parler de que la messe est un sacrifice. Hein. On voit bien là. Hein. Et pourtant, voyez-vous, là, parler partage, dire ce que Jésus est pour nous, c'est louper ce fait que ce qu'il est pour nous, c'est parce qu'il a été, il s'est offert à son Père. Voyez-vous, il y a à la messe, quoi qu'il en soit, une dimension verticale. Hein? Hein? J'ai entendu de très belles homilies que je ne saurais pas faire, et pourtant, mais on loupe quelque chose. Hein? C'est pas seulement le repas. Pour qu'il y ait repas, eh bien, il faut qu'il y ait cette dimension, si on peut dire, verticale, et qu'il y ait celle d'abord, de celle de Jésus, qui a l'offrande de lui-même à son Père. Je le disais, hein, quand j'ai parlé donc même de la scène, hein, il est dit, voilà, hein, le corps, hein, le cri qui dit, ceci est mon corps, donné pour vous, ceci est mon sang, versé pour vous. Le pour vous qui était là, avait donc une dimension qu'on pourrait dire, eh bien, sacrificielle. Non, autrement dit, même pour nous, peut-être que nous avons, hein, à dire que, puisque c'est la forme, puisque c'est la prière de l'Église, eh bien que notre vie aussi, hein, elle devrait être pas seulement, elle est rendre grâce, c'est sûr, elle est aussi offrande. Hein, offrande, donc, hein, eh bien, à Dieu. C'est comme ça qu'on entre dans l'Eucharistie. Je dirais en même temps, voyez-vous, hein, que, eh bien, de nos jours, hein, la notion de sacrifice est pratiquement quelque chose qui est complètement auquel notre monde devient de sacrifice au sens, je l'entends ici, hein, parce que ce n'est pas seulement des petits sacrifices, hein, ce n'est pas seulement de se faire mal à soi-même, une oblation, une offrande. On voit bien, bien que, eh bien, dans le monde dans lequel nous sommes, hein, qui devient de plus en plus sécularisé, hein, où la référence à un autre, à Dieu, devient de plus en plus, dans le meilleur des cas, brumeuse, hein, sinon a disparu complètement, si on peut dire, du champ de l'horizon, eh bien, on voit comment, autrement dit, parler, hein, au sens même où l'Église en parle, la messe en parle, parler de sacrifice. Parler de sacrifice, c'est tout de même l'affirmation qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein? Hein? Si on y est complètement imperméable, eh bien, cela paraît complètement, on peut dire, dépassé. Hein? Jusqu'à un certain point, c'est la cause d'une désaffection dans nos églises. Mais je dirais aussi, hein, ça nous concerne, voyez-vous, eh bien, la baisse de relève des vocations sacerdotales. Hein. Il fut un temps où dans la société, même dans notre société, il y avait une place, hein, pour le prêtre. Hein. Il était un acteur dans cette société. On pourrait dire qu'il avait sa profession. Hein. Bon. Mais dans la mesure où, finalement, hein, on pourrait dire, Dieu, je dirais, bon, il n'existe pas nécessairement, bah, vraiment, on ne peut s'en occuper, quoi. Elle est extérieure, quoi. Hein, comme une peau qu'on a laissée tomber. Hein. Eh bien, notre monde a la difficulté à reconnaître ce que c'est que la place que peut tenir un prêtre, hein, hein, dans la société et même parfois dans l'Église. Le prêtre, finalement, bien entendu, il doit être, enfin, il prêche l'Évangile, avoir des œuvres caritatives, mais d'abord et avant tout, il est celui qui offre le très saint sacrifice de la messe. Hein. Voilà. Et nous, hein, eh bien, parce que le nous, il y a toujours un nous là-dedans, hein, eh bien, nous sommes là par rapport à un monde qui est, on dirait, qui est sécularisé. Hein, eh bien, on ose croire d'abord que Dieu existe. Et alors, eh bien, que eh bien, il vaut l'offrande de nous-mêmes. Hein. Donc, on voit bien, il y a un enjeu derrière la notion de sacrifice et qui nous concerne. Voilà. Alors, j'en viens maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il faut entendre par sacrifice? Alors, je prends tout simplement, parce que vraiment, je crois que c'est une bonne façon de commencer, hein, un psaume que vous connaissez bien, hein, qui est le psaume 50. Hein? Voilà. Alors, bien entendu, c'est un psaume magnifique, fait que j'entende les chants et la fête, crée en moi un cœur pur. Et alors vient cette phrase. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'holocauste. Voilà. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Donc, le véritable sacrifice, hein, eh bien, c'est celui, comme il est dit ici, hein, d'un cœur brisé, d'un cœur broyé, hein, et qui se met devant Dieu. Magnifique. Et alors, une fois que ça s'est dit, hein, on dirait dire, plus besoin d'avoir de sacrifice. Hein, et la phrase suivante, accorde Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices. On voit, hein, oblations et holocaustes. Et voilà, hein, ce beau psaume, magnifique psaume, se termine, son dernier verset, c'est alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà. Autrement dit, vous avez là dans ce psaume, je dirais, tout l'Ancien Testament. Hein, d'une part, hein, chez les prophètes et tout ça, hein, eh bien, la critique, peut-on dire, hein, des actes qui sont purement extérieurs, hein, voilà, ça passe par un cœur brisé. Et pourtant, eh bien, le cœur brisé, à lui tout seul, ne suffit pas, puisqu'il est dit, on offrira des taureaux sur ton autel. Hein, Et c'est ce qui frappe dans tout l'Ancien Testament. Lorsqu'on regarde les premiers chapitres du livre de Lévitique, il nous est parlé, c'est un rituel des sacrifices. Tout l'Ancien Testament, je dirais même du point de vue social, se construit autour du temple, des prêtres, des lévites. Et alors on nous donne à ce moment-là un certain nombre de sacrifices. Ils sont là. Ça fait donc l'histoire de l'Ancien Testament. J'en donne quelques-uns parce que je vais regarder les premiers chapitres, tout simplement, du livre du Lévitique. Bon, il est parlé de l'Holocauste. Là, c'est l'animal entier. Animal entier, qu'on sacrifie. Et alors, qu'on offre à Dieu comme en parfum d'apaisement. Donc, autrement dit, l'Holocauste, c'est la victime entière qui est consumée. Et l'encens, l'odeur, le parfum de cela, monte vers Dieu. Voilà. Il y a encore une autre qui est l'oblation. Là, ce sont des offrandes du produit du sol. Et alors, parce qu'on voit bien, il y a toujours, tout de même, vous voyez bien, là, on offrira des taureaux sur votre autel. Ça, tout de même, toujours des animaux et du sang versé. Voilà. Et l'alliance, par exemple, comme on l'a vu à Exode 24, au Sinaï, elle, précisément, c'est en versant du sang sur l'autel. Il y a le sang. Donc, lorsque ce sacrifice de communion, nous ne pratiquons plus cela, mais on voit que tout de même, c'était même derrière l'Ancien Testament, et ça avait sûrement un sens, une importance qu'on aura donc essayé peut-être de voir par nous-mêmes. Alors, il y a donc aussi un sacrifice de communion, un autre genre. Et là, la victime, elle est partagée entre Dieu et l'offrant. Autrement dit, ça peut être là un banquet sacré. Donc, les parties les plus vitales de la victime, bien entendu, sont offertes à Dieu. Une part de soi est attribuée au prêtre et le reste est consommé donc par les fidèles. Donc, c'est un sacrifice de communion qui exprime une communauté de vie, une relation d'alliance et d'amitié avec Dieu et les fidèles. Vous le voyez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore parlé de péché. Il y a aussi donc un sacrifice pour les péchés, un sacrifice d'expiation. Enfin, le cas type, ce sera vous avez déjà entendu parler du Yom Kippour. Et bien entendu, là, il n'est pas question de partager la victime, puisqu'au fond, on est soi-même. On n'en est pas digne, Et ce qui reste de la victime, tout simplement, est brûlé en dehors du sanctuaire. Donc, en tout cas, retenons ceci. Il y a une victime, il y a du sang versé, et alors, cela est offert à Dieu. Bien entendu, on aura l'occasion d'en reparler, le sacrifice de la croix est d'un autre ordre. Autrement dit, le Christ n'a pas été sacrifié rituellement comme on sacrifiait les taureaux. En même temps, lui-même, il ne s'est pas sacrifié, on pourrait dire, d'une façon suicidaire, Et pourtant, c'est cela. C'est tout de même, c'est l'offrande de son corps. Et de ce point de vue-là, comme on a l'occasion de le voir, le Christ est à la fois le prêtre et la victime sur l'autel de la croix. Et vous le voyez, de toute façon, en toute Eucharistie, on ne parle pas uniquement d'une table, on parle d'un autel, Et l'autel a tout de même un rapport avec un sacrifice. Voilà. Alors, donc, voilà ce qui en est, et il me semble que pour pouvoir, parce que c'est à la fois tout ce monde de l'Ancien Testament. Hein. Et cette notion de victime, telle qu'on la retrouve, par exemple, on l'a, par exemple, on l'a dans l'islam, à sa façon, quoi. Hein. Il y a des sacrifices tout de même. Hein. Bon. Eh bien, elle nous est étrangère et pourtant, elle signifie quelque chose. Hein. Et là, eh bien, je trouve qu'il est bon, hein, d'avoir, je dirais, comme une approche anthropologique, hein, de ce que c'est le sacrifice, quoi. Et pour ceci, ben, concrètement, eh bien, dans les pages qui viennent et que je vous ai passées, là, comme résumé, hein, eh bien, je m'inspire très fort de Antoine Vergotte, qui était donc un psychanalyste et en même temps, eh bien, un anthropologue, donc, hein, donc chrétien et catholique. Hein. Et alors, pour rejoindre par-delà, je dirais parce que dès qu'on pense sacrifice, on pense aussi culpabilité, on pense aussi, eh bien, on pense même parfois la rivalité qu'il y a entre Dieu et nous. Hein. Dieu exige, hein, comme s'il y avait un côté de punition. Enfin, il y a tout ce côté, ce magma, peut-on dire, eh bien, de ce que sont souvent, hein, nos projections, hein, on pourrait dire nos surinvestissements humains, et qui cachent ce qui est beau, ce qui est juste, hein, ce qu'il y a dans, précisément, l'idée donc de sacrifice. Et qu'il faut garder, puisqu'on les a à la messe, par-delà, il faut bien le reconnaître, des pratiques qui sont désormais révolues. Hein. On dit, nos contemporains, et entre autres, pour les raisons que je dis là, ont souvent, la plupart du temps, même peut-être que quand j'en ai parlé les premiers jours, la première fois que j'en ai parlé, peut-être que vous avez même vous-même eu l'impression que parler de sacrifice, eh bien, ça a nécessairement une connotation négative. Hein? Voilà. Alors qu'il faut voir que c'est autre chose. J'en viens donc, je reprends, alors je vais prendre comme ça, Antoine Vergotte. Il y a peut-être des mots qui vous paraîtront un peu bizarres, qu'on n'emploie pas tous les jours, hein, qui sont propres à un vocabulaire, si on peut dire, bon, davantage, disons, de la psychanalyse ou quoi. Mais enfin, derrière, malgré tout, vous verrez bien ce dont il s'agit, quoi. Hein. Alors, je le suis d'assez près. Hein. Alors, il fait remarquer ceci, hein, au regard des sciences humaines, le sacrifice s'avère la pierre angulaire du dispositif religieux dans la plupart des sociétés primitives. Et c'est vrai, donc, de ce point de vue-là, par rapport à ce que nous avons évoqué, hein, et que sont les premières pages du livre du Lévitique. Je continue. Par le sacrifice, l'homme accède à l'ordre, ça c'est les sciences humaines qui parlent, hein, à l'ordre symbolique et partant à celui de la culture. Autrement dit, la culture symbolique implique précisément, eh bien, une capacité de reconnaissance les uns des autres. Je lis. Par ordre symbolique, il faut entendre ici ce qui fait entrer dans un réseau de relations signifiantes avec soi-même et avec les autres. Et ça veut dire quoi, hein? C'est ce qui arrache tout simplement à l'identification narcissique avec soi-même, c'est-à-dire seulement à se regarder soi-même, ou encore uniquement à regarder les autres par une espèce de compétition ou de mimétisme. Hein? Autrement dit, c'est ce qui rend la reconnaissance mutuelle dans un échange consenti. Or, à l'épicentre, c'est cela, hein, de cette relation à soi-même et avec les autres. Hein, relation à soi-même qui n'est pas seulement de se regarder, relation aux autres qui n'est pas seulement, eh bien, d'être là en compétition avec eux. Hein, eh bien, il y a la relation, voyez-vous, originelle et fondatrice, hein, dont tient notre existence. Autrement dit, eh bien, c'est le rapport, disons, à la divinité, à quelqu'un d'autre, hein, à Dieu. Et nous dirons, donc, nous, eh bien, du Dieu de Jésus-Christ. Or, c'est ce rapport, voyez-vous, à ce qui est, donc, fond, la relation originaire, eh bien, qui se trouve symbolisée, ou effectuée plutôt, dans l'acte qui est celui du sacrifice. Autrement dit, là, en posant cet acte, eh bien, on se trouve tout de même dans la reconnaissance de l'autre, de la divinité, et cela à travers un rite. Et je crois qu'il y a cette phrase, probablement, que j'ai mise sur votre feuille, que je n'ai pas là, non, mais enfin, c'est ça. Donc, voilà, c'est Vergotte qui dit, « Le sacrifice se retrouve dans la plupart des religions. Il en constitue le rite religieux le plus accompli. » Il continue, « En effet, le sacrifice différencie l'homme et Dieu tout en les unissant. » Il différencie, parce que si j'offre, ben voilà, c'est tout de même que l'autre est différent de moi. Autrement, je m'offrirais à moi-même. Hein? Hein? Ben, hein? Et alors, en offrant, eh bien, ça unit, hein? À travers, eh bien, ce qui est offert. Autrement dit, à ce moment-là, reconnaissez ceci, le don. Donc, ce n'est pas seulement, autrement dit, d'avoir des bonnes intentions, d'avoir un bon cœur. Eh bien, ça passe par le don d'une offrande, une chose, hein? Et qui, de fait, est l'élément essentiel et universel du sacrifice. Et on l'avait vu, là, hein, pour tous les sacrifices du Lévitique, ça passe soit par une victime, hein, qu'on a immolée, ou encore, ça passe par un don d'une offrande de pain. Et alors, donc, il y a cette phrase, c'est très importante, parce qu'elle va revenir, vous allez voir, hein, ce que disent les psychologues, ou enfin, disons, hein, sciences humaines. Vous allez voir, c'est repris ensuite, c'est au point de départ même, la théologie, peut-on dire, du sacrifice chez les pères de l'Église. Et ça revient à dire ceci, voyez-vous, hein? Il y a une grammaire derrière cela. Hein? Et la grammaire derrière cela, elle est celle-ci, c'est que, un, l'homme donne de ce qu'il a reçu. Hein? Il donne de ses propres biens. Deux, et le don qu'il fait ne profite en rien à celui à qui il le fait, à l'autre, mais à lui-même. Hein? Autrement dit, nous n'offrons pas à Dieu parce qu'il a besoin. Nous n'offrons pas comme, hein, peut-on, une culture archaïque, hein? On n'offre pas des produits parce qu'il aurait. Il aura besoin lui-même de nourriture, vous voyez bien, hein? Donc, ce n'est pas pour lui, mais ça passe par lui pour arriver jusqu'à nous. Hein? Alors donc, jusqu'à tel point, bah, il faut se défaire, hein, de son imaginaire, peut-on dire, hein, et éviter de vouloir, parce que c'est cela, hein, ce n'est pas un échange mercantile. Hein? Des fois, on dit, hey, j'y mets le prix, hein, ça doit être payé en retour. Hein. Ce n'est pas, je donne pour que tu me donnes en retour. Hein. Donc, je lis ici une phrase, tu sais, qui vient encore de notre ami Vergotte, parce que ça donne un peu les fondements. Hein. Le véritable bénéfice que l'homme retire de l'offrande sacrifice, hein, écrit Vergotte, est de se relier à Dieu, et non pas d'obtenir un don particulier en échange pour la chose offerte. C'est pas « d'eau, donne-moi, je te donne et tu me donnes ». Ça revient à dire ceci, relié ainsi à la source, à la garantie de son existence, mis en présence de Dieu, hein, dans le lieu, hein, couvre ainsi le symbole, hein, l'être humain se dilate et se surpasse. Donc, voilà. Adieu, et finalement, eh bien, pour moi. Alors, donc, il y a trois types, trois temps, peut-on dire, dirait-il, du sacrifice. Le premier, peut-on dire, ben, c'est l'oblation, c'est l'offrande. Le deuxième, hein, qui vient s'y ajouter, peut-on dire, et là, on est le sacrifice au sens propre du terme, hein, tel que, eh bien, j'y ai fait allusion en nous référant donc au Lévitique, et je dirais même finalement, ben voilà, au Lévitique, au taureau dont parlait donc le psaume 50. Donc, il y a d'abord l'oblation, l'offrande. Autrement dit, vous voyez bien, il y a le monde de Dieu et il y a le monde qui est le nôtre. Il y a un rapport, malgré tout, il emploie ce mot, hein, on ne peut pas les confondre, et pourtant, on pourrait dire, ils se touchent l'un l'autre. Hein. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde. Hein. Et alors, eh bien, ce qui fait donc l'oblation, la victime, eh bien, elle est non pas, elle est précisément d'établir, de mettre en relation avec ce qui n'est pas nous et ce qui est du domaine de Dieu. Alors, à ce niveau-là, ouais, toute offrande, quelle qu'elle soit, elle aura toujours un élément de négativité. Ça revient ne serait-ce qu'à ceci. Lorsque on offre à Dieu, il y a donc une mise à part. Bon, je dirais, la banane que je lui offre, eh bien, je n'en dispose plus. Hein? Elle est retirée de l'usage commun. Voilà. Intéressant. Hein? C'est comme ça qu'elle peut signifier quelque chose. Autrement, elle serait banale, de façon banale, tout simplement, voilà, hein, la banane que je peux éplucher dans mon assiette. Hein? Non, elle prend une valeur, hein, du fait même que je l'ai mis à part. Donc, il y a un côté négatif. Hein? Et qui est essentiel donc à l'offrande. Autrement dit, voyez-vous, il transforme l'immédiatement disponible de la vie qu'on peut avoir dans son assiette, eh bien, en signifiant, hein, de ce qu'il veut signifier et qui est tout de même un rapport avec Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah, ce qu'il veut signifier, c'est tout de même un rapport avec Dieu. Autrement dit, le don lui-même appartient à l'ordre humain. Donc, c'est vraiment de la nourriture pour l'homme, c'est vraiment ce qui symbolise la vie et ses désirs. Mais si on pense à une mise à part, voyez-vous, d'abord, le fait de mettre à part, c'est déjà à ce moment-là, la banane, la plume, je prends une caricature, mais enfin, vous voyez bien, eh bien, c'est attester tout de même le droit de la divinité, sur moi-même, puisque cela, je le mets à part. Et en même temps, eh bien, le droit de la divinité, eh bien, sur l'univers entier. Autrement dit, l'objet offert représente dans son retrait même de l'usage courant, bah, à la fois celui qui offre, parce que c'est tout de même moi qui l'offre, hein, et celui à qui il est offert, hein, Dieu. Et de fait, mais, et celui qui offre, et celui à qui on offre, en présence l'un de l'autre. Sans confusion, parce que Dieu est Dieu, l'homme est homme. Alors, arrive ceci, voyez-vous, hein, c'est que, voyez-vous, ça passe par des choses concrètes. Hein. Voyez-vous, à ce moment-là, hein, ce que j'ai pris, ce dont je ne dispose plus, j'en reste avec mon exemple de la banane, voilà. Hein, eh bien, voilà, je n'en dispose plus, devient, hein, l'élément intermédiaire entre moi et Dieu, entre l'homme et Dieu, et n'est plus à moi. Et en même temps, j'ai reconnu, peut-on dire, eh bien, le droit de Dieu. Hein? Autrement dit, ce que j'ai offert, hein, même dans une absence ressentie, parce qu'il y a une distance entre Dieu et moi, il m'est donc en présence. Autrement dit, en lui, dans cet objet-là, dont je ne dispose plus, hein, eh bien, se trouve à la fois signifié ou encore symbolisé, si vous voulez, donc la vie, hein, la vie, et en même temps, eh bien, ce qui est la source de la vie, hein, à travers mon acte, parce que les actes, ici, qui parlent, hein, l'acte lui-même me fait de reconnaître ce qui est la source de la vie. Donc, dans le geste d'oblation, autrement dit, l'écart qu'opère la mise à part symbolise, enfin, elle signifie, et en même temps, elle réalise, les deux à la fois, eh bien, la présence divine. Tout était clos, et voilà que par l'offrande que je fais, eh bien, elle n'est plus à moi. Et le fait, eh bien, je le remets au droit de Dieu. Autrement dit, absent parce que différent, parce qu'il l'est, Dieu se trouve relié à l'homme par l'intermédiaire du signe institué, de l'offrande qu'il a fait. Vous le voyez bien ici, il y a un renoncement. J'ai renoncé à cet objet qui pouvait m'être cher. Mais, de fait, cela n'a pas la connotation d'une dévalorisation. Autrement dit, cet objet que j'offre, je le valorise en lui reconnaissant un surplus de valeur, puisqu'au fond, il en arrive à signifier ma relation avec Dieu lui-même. Autrement dit, ça fait advenir à une présence divine. Donc, on voit, toute oblation implique une mise à part, mais cette mise à part, elle ouvre sur quelque chose. Un monde, voyez-vous, qui serait clos, qui serait fermé sur lui-même, eh bien voilà, il y a un acte qui me fait sortir de moi-même et qui le fait en ce que j'offre, mais au contact de ce que j'en connais comme la source de la vie. Voilà. Ensuite vient, bien entendu, le sacrifice, proprement dit. Donc, autrement dit, le sacrifice, lui, ne se distingue de l'oblation, parce que, voyez-vous, l'oblation, j'offre le blé, le froment, ou enfin, j'offre ma banane, tandis que dans le sacrifice, voyez-vous, il y a la destruction ou la mise à mort de ce qui est offert. Ce sera le fait de tous les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. Autrement dit, le fait que ce soit mis à mort, là, eh bien, le sacrifice dit, il y avait une mise à part déjà dans l'offrande, je n'en dispose plus de moi-même. Ici, eh bien, ça dit le caractère radical, peut-on dire, de cette mise à mort. Or, voyez-vous, d'une façon ou d'une autre, l'idée de mort, comme on dit, mourir à soi-même, mourir à soi-même fait passer à un autre ordre, à une autre sensibilité, à une autre façon de percevoir les choses. On pourrait dire, puisque nous sommes là au niveau de la de ce que j'appelle un ordre symbolique, d'un ordre de relation, eh bien, l'idée donc de mort, mise à part de mort, elle est constitutive de tout acte, de tout ordre symbolique. Autrement dit, il y a là un dépassement de ce qui se donne dans l'immédiateté de la vie. Il y a un dépassement, il y a une mise à mort, il y a une renonciation, renoncement, et qu'il y a quelque chose toujours, une mort. Bon, alors, ça se fait comment? Si je meurs, si je me suicide moi-même, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça se fait par procuration, autrement dit. Ça se fait, dans les sociétés primitives, ça se fait dans le livre du Lévitique, ça se fait précisément par la mise à mort d'un animal, quoi. Et c'est Beauchamp qui faisait remarquer que, impossible de comprendre le sacrifice dans l'Ancien Testament sans apprécier le degré d'intimité qui unit l'homme biblique et ses animaux. Autrement dit, sacrifier l'animal, c'était se faire violence à soi-même. ça passe par un autre, ça passe eh bien par la bête, et eh bien que, eh bien, on immole. Vous le voyez bien, on est encore dans un rapport d'alliance, et là, eh bien, la destruction elle-même met une offrande seconde. Enfin, toujours, je prends toute la grammaire, elle est là, eh bien, je donne à Dieu, eh bien, ce que j'ai reçu de lui, et je le mets à part, comme à travers une bête que je sacrifie, mais pas parce qu'il en a besoin, c'est pour pouvoir, eh bien, qu'il donne de partager, si on peut dire, sa propre vie. Je rejoins la source de la vie, et que ce soit cette source de la vie qui, en retour, eh bien, me fasse vivre. Il y a un aspect donc dialogal. Alors donc, si on prend cela, je suis toujours notre ami Vergotte, si on prend cela, voyez-vous, dans le sacrifice, voyez-vous, il y a du sang versé. Voilà. Or, eh bien, le sang versé, eh bien, a double valeur, peut-on dire, d'un point de vue symbolique. Autrement dit, l'animal mis à mort représente celui qui l'offre en se substituant à lui. C'est pas moi qui meurs. Eh bien, autrement dit, je renonce à moi-même, et bien précisément à travers, eh bien, l'animal que j'offre et que je sacrifie en Dieu. Donc, en tout sacrifice, quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, eh bien, on se sacrifie soi-même en quelque sorte. Mais alors, eh bien, pourquoi? Eh bien, c'est, comme il dit, voyez-vous, il y a une espèce de forme de suicide, peut-on dire, symbolique, parce qu'au fond, eh bien, il reste que je vis, et que le don de la vie est gardé. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un lien avec Dieu qui est posé, alors même que, eh bien, ça passe par le sang de la victime. Donc, mais surtout, alors, à cela, voyez-vous, donc ça passe par le sang, ça passe par la vie donnée, et pour ailleurs, eh bien, pour la vie reçue. Voyez-vous, cela, c'est bon de se dire, ce sont des notions d'anthropologie qui peuvent nous aider, comme ça, paisiblement, eh bien, à situer, à décanter, à dépasser, voyez-vous, uniquement l'aspect, on pourrait dire, des fois, punitif, culpabilisant, qu'on voit derrière la notion de sacrifice. Elle est d'abord, eh bien, l'instauration d'une relation avec Dieu, eh bien, dans un échange. Je lui donne de ce que j'ai reçu de lui, et en retour, dans l'espace qui s'ouvre ainsi, eh bien, que ce soit qu'il me rende participant de sa vie, lui qui est la source de la vie. Et alors, donc, le sang aussi, eh bien, que voulez-vous, aussi, c'est Vergotte qui l'a fait remarquer, eh bien, c'est tout de même un principe de vie. Le sang est un principe de vie. Et à travers le sang, voyez-vous, c'est de faire communiquer avec le principe de vie lui-même. Et alors, c'est lui, parce qu'on n'est pas loin en même temps, parce qu'au fond, nous aussi, nous serons là, dans l'Eucharistie, nous sommes tout de même là, eh bien, communier au corps et au sang du Christ. Eh bien, il y a, comme le dit lui-même, il n'y a pas de lien plus fort que celui de la consanguinité. Et autrement dit, eh bien, il y a donc, en donnant, eh bien, ce qu'on puisse recevoir en échange, eh bien, la vie, le principe de vie qui est dans la divinité. Je lis une phrase de Vergotte ici. Communiquant par le sang de la victime sacrificielle, Dieu et l'homme s'unissent dans un pacte de parenté. C'est pas parenté, ça a tout de même rapport à une consanguinité. Bien entendu, le sang versé, tout simplement, bon, je dirais, il symbolise quelque chose d'autre, c'est-à-dire finalement, eh bien, le fait eh bien, d'être rendu participant d'une même vie. De cette manière, le sacrifice de l'oblation nous conduit, voyez-vous, à la communion, où l'échange se signifie concrètement dans le geste de la prise à soi. Autrement dit, voilà, c'est la, on se trouve entré dans un geste de communion. À l'intérieur, voyez-vous, de l'espace couvre cette mise à découvert, à part de lui-même, ou encore, eh bien, la bête, qui te fait, comme par procuration, a dit le renoncement qu'on nous fait à soi-même de façon à ne vivre, à participer, à partager, peut-on dire, la vie, et eh bien celui qu'on reconnaît comme au principe de la vie. Donc, voilà pour le sacrifice. Et alors vient bien entendu là-dessus, bon, c'est la troisième catégorie, oui, bon, l'offrande, le fait de mettre à part, ce n'est plus à nous. Et du coup, eh bien, ça ouvre un espace à Dieu. Ce qui se radicalise, peut-on dire, ça touche le sang dans le sacrifice. Mais alors, il y a un troisième, voyez-vous, type, là, déjà, dans le Lévitique, et qui est le sacrifice de de communion. Je lis encore une fois ici Vergotte. Dans la plupart des religions, le sacrifice s'achève par une participation à la victime sacrifiée. Tout ce que nous voyons là, voyez-vous, se réalise mystérieusement en toute Eucharistie. Tous ces mots prennent un sens aussi à partir de l'Eucharistie. Donc, une participation à la victime sacrifiée. Nous devenions un seul corps et un seul esprit. Et alors, ce qui caractérise et définit cette communion sous toutes ses formes, c'est, voilà, c'est que ceux qui participent s'unissent en se rattachant à un même principe sacré. Ce sera dans la communion au corps et au sang du Christ, eh bien, que de fait, on devient un seul corps et un seul esprit, et surtout que la messe devient aussi un repas. Même un repas. Donc, et cette participation se réalise, on voit bien, sur le plan, comme je disais, vertical, aussi bien que sur le plan horizontal. Le plan vertical est important parce que c'est lui qui fonde finalement eh bien, le plan horizontal. Et au plan vertical, vous le voyez, c'est une participation avec Dieu. Il y a participation avec Dieu et qui est représentée dans ce qui est offert. Dans ce qui est offert, eh bien, se trouve signifié, peut-on dire, une participation avec Dieu. En communiant, l'homme ne fait qu'achever l'instauration du lien avec Dieu, déjà signifié dans l'offrande. Il y a une offrande, il y a tout de même un lien, sans confusion, entre moi et Dieu. Et en même temps, on peut dire le monde de Dieu, eh bien, il y a un lien sans confusion. À l'intérieur de cette distinction, eh bien, la communion de l'homme achève, peut-on dire, eh bien, comme communion, ce qui a d'abord été affirmation de ce que eh bien, l'autre est autre et source de ma vie. Et alors, concrètement, voyez-vous, le texte continue, que l'absorption accomplisse le geste oblatif et sacrificiel, cela est bien autrement dit, ça passe bien par le fait de manger ou de boire. Bon, on pourrait dire, c'est ce qui est de plus archaïque en l'homme, voyez-vous, c'est que, eh bien, l'appropriation, s'approprier les choses, même intérioriser les choses, hein, eh bien, ça passe par ces gestes symboliques les plus fondamentaux qui sont tout de même du domaine du manger et du boire. Hein. Manger et boire, c'est s'assimiler. Hein, c'est s'assimiler. Hein, bon, ce qui est donc reconnu comme source de la vie. Donc, il y a un sens, hein, déjà de point de vue anthropologique, peut-on dire, point de vue sciences humaines, à reconnaître que, eh bien, ce n'est pas seulement une activité intellectuelle, ça passe aussi par le corps. Hein. L'appropriation passe par le corps, passe par le fait, eh bien, de manger et de boire, et c'est ce qui se produit, si on peut dire, en tout sacrifice de communion, tel qu'on peut l'avoir. Eh bien, par exemple, comme je sais, dans le livre du Lévitique. Hein? Hein? Comment dire, parce qu'on demeure un être corporel. Hein? Si intellectuel, si abstrait, si spirituel qu'on est. Quoi. Et de ce point de vue-là, le repas, symbolique du sacrifice, signifie, hein, que la part... Alors, ça c'est très important. Que la participation à Dieu se réalise aussi à l'intérieur du monde humain. Que voulez-vous? Il peut y avoir une offrande à la victime. Il reste que le repas, hein, que tous les gens qui ont participé, bien, se retrouvent ensemble, soit près de la tombe, soit près de l'autel. Bah, tout de même, ça se passe sur Terre, cela. Hein? Autrement dit, c'est tout de même, ça se passe à l'intérieur du monde humain. Hein? 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 Autrement dit, s'il y a une communion, voyez-vous, hein, pour nous, hein, je suis là, hein, corps et au sang du Christ, si ça nous fait donc, ça nous rend frères les uns avec les autres, c'est pas seulement en regardant vers en haut, hein, c'est tout simplement que cela se passe à l'intérieur du monde humain lui-même, de nos relations humaines. Hein. Et le texte continue, c'est de chapitre, dans l'oblation et dans la communion, l'homme célèbre tout à la fois la jouissance des biens terrestres, parce qu'au fond, je présume que tout de même, voilà, on s'est partagé la victime, ce n'est pas pour pleurer, hein, hein, c'est tout de même pour se réjouir. Hein. Et alors, en cela, eh bien, leur pouvoir, hein, les biens terrestres, à ce moment-là, deviennent ce qui relie à la source de tout bien. Parce que c'est ça, à la source de tout bien. Hein. Donc, il me reste 2 minutes, je dirais seulement ceci, voyez-vous. Retenez de cela ce que vous voulez. Tout simplement, ce qui est important, c'est de voir que ce n'est pas bête. Hein. Hein? C'est important que si on fait des, si vraiment on pense sacrifice, on n'est pas tout simplement ringard. Hein? Hein? On n'est pas d'un autre monde qui est dépassé, quoi. Hein? Hein? Ça rejoint, eh bien, ce que souvent, au moins, on l'affirme que Dieu est. Hein? Hein? Et on affirme, autrement dit, qu'il s'établit une, on peut, il s'établit donc une relation donc avec lui. Hein? Je retiens vraiment 2 choses, voyez-vous, c'est que cela, on ne l'invente pas. Autrement dit, pour que ça puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait une part, comme on dit en sciences humaines, il faut qu'il y ait une parole instituante. Autrement dit, dans une société primitive, ou même, eh bien, dans l'Ancien Testament, que voulez-vous, hein, on obéit, ça vient d'un discours religieux qui vient d'un ailleurs que du monde. C'est pas seulement que nous parlons nous-mêmes. Autrement dit, eh bien, ça doit se vérifier, autrement dit, ne serait-ce que pas comme ça arrive, bah, la médiation des ancêtres, hein, dans beaucoup de sociétés donc africaines, hein, ou encore, eh bien, par la loi de Moïse. Autrement dit, on entre dans quelque chose que l'on reçoit. Pour nous, eh bien, que voulez-vous, la parole instituante, pour nous, c'est fait ceci en mémoire de moi. Hein. On n'invente pas l'Eucharistie. Hein. On entre dans quelque chose qui nous précède. Hein, hein. Et alors, eh bien, qui donne sens au geste que l'on pose. Deuxièmement, vous le voyez bien, hein, eh bien, il y a le double aspect, voulez-vous, il doit y avoir, il faut que ça soit informé, que ce soit qu'il y ait au point de départ donc, une parole instituante, hein, et en même temps, eh bien, le croisement de cela, c'est qu'il y a aussi, eh bien, un assentiment humain qui se voit donner, hein, Dieu, hein, comme initiative, et alors, eh bien, l'assentiment humain, que voulez-vous, il est cette phrase sur laquelle nous reviendrons. Nous t'offrons de tes dons. Hein? Hein? Eh bien, nous t'offrons de tes dons en hommage. Eh bien, pour qu'en retour, eh bien, nous vivions donc de ta vie. Hein? Et cela passe par un rite extrêmement important. Hein. Que voulez-vous, notre vie, nous n'inventons pas tout le temps. Hein. Ce que nous sommes. Hein. Ça passe aussi, voyez-vous, par l'intermédiaire de rites. Hein. Le prêtre les répète tous les matins, hein. Nous-mêmes tous les dimanches. Hein. Et pourtant, ils demeurent eux-mêmes inépuisables parce qu'il nous faut un rite nous faire entrer tel qu'on est, nous dépouille, je dirais, de nous-mêmes, alors même qu'on s'y engage, hein, et bien pour nous faire entrer dans une action qui nous dépasse. Hein, qui nous dépasse. Hein, et en même temps, et qu'on fait nôtre, parce que c'est tout de même nous qui rentrons dans ce rite. Autrement dit, on ne peut pas inventer la messe tous les dimanches. Hein, on la reçoit. Et c'est ainsi et bien qu'elle elle nous forme, c'est ainsi et bien qu'elle nous donne pour poser, de trouver l'accord, les gestes qui conviennent. Donc, retenons au moins ceci, que voulez-vous, pour qu'il y ait offrande, il faut qu'il y ait tout de même quelque chose qu'on offre. Hein. Il y a une chose qui est l'élément intermédiaire, on dit, entre nous et alors celui à qui on offre. Cet élément intermédiaire pour nous, bien ce sera le corps et le sang du Christ. Hein. C'est lui qu'on offre. Hein. Et en échange, c'est l'envoi de l'Esprit, c'est la réponse, on peut dire, du Père. Non, on dit, c'est nous. Et en même temps, on entre dans un acte qui nous porte et qui nous dépasse. Donc, voilà. Donc, restons-en là. Ça peut donner une idée derrière le mot barbare, ça peut dire des sciences humaines, de la psychanalyse, montrer, voyez-vous, que nous ne sommes pas penser sacrifice, c'est pas uniquement faire des petits sacrifices, c'est pas uniquement se sacrifier soi-même, c'est offrir. Offrir. Et s'il y a une mise à part, c'est précisément pour ouvrir l'espace. Parce que, celui qui est le principe de vie, communique, on puisse partager quelque chose de sa vie. Nous en restons là et on continuera la fois prochaine. Ah, ça oui, hein.
Voilà.
Bonjour. Hein. C'est pour la, c'est pour